Interview.
2 jours.
Près du micro, c'est bon pour
oui,
vous.
Oui, c'est ouais. Très bien.
Parfait.
Puis si, je suis là pour régler, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Vous êtes prête?
Ben oui, hein.
Allez,
faut
c'est parti.
Lancer.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 sur le Diwa, ou alors en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr et également sur le site YouTube, sur la page de Erdiwa, vous pourrez retrouver ce podcast également. Et nous sommes au studio aujourd'hui avec Chloé Peterman, bonjour.
Bonjour.
Chloé Peterman, vous êtes ici pour nous parler des murs, ne servent à rien, 5e édition, 2 jours de films, lectures, radio, conférences sur les questions de migration et tout ça, ça se passera donc le 25 et 26 septembre à la Halle de Dieu le Fy.
Tout à fait, oui, c'est notre 5e anniversaire.
Chaque année, vous partez avec une thématique sur chaque édition.
Alors disons qu'en tant que programmatrice, j'ai une sorte de veille tout au long de l'année sur les films qui sortent sur la question migratoire, ainsi que sur ce qui sort en radio. J'essaye de me tenir informée des sujets qui sont abordés. Et l'idée des murs ne servent à rien, c'est depuis le départ de croiser les médiums. C'est-à-dire qu'on aime à la fois montrer des films, faire des lectures, faire des écoutes publiques de radio, puisqu'on est un peu en collaboration avec Radiola et qu'on aime bien cette idée de l'écoute publique où tout un groupe de personnes sont dans une salle à écouter de la radio. C'est pas forcément quelque chose qui est connu en milieu rural, mais on aime beaucoup faire ça. Donc cette année, on va écouter tous ensemble un reportage de Raphaël Kraft à la frontière entre l'Italie et la France. Mais cette année, la chose pour laquelle on a beaucoup de chance, c'est qu'on a beaucoup d'invités. On fait venir 5 personnes différentes qui vont nous parler de différents sujets, soit sous forme de conférences, soit sous forme de conférences panorama photographique commentées, soit sous forme de discussions avec des interviews qui vont être réalisées soit par moi, soit par Pauline, le maire des Marais de Radiola, et qui permettront aussi d'avoir une discussion avec le public, où le public pourra poser des questions aux invités de marque que nous allons recevoir cette année.
Voilà, un bonjour à Pauline de Radiola, qui est passée par chez nous un moment.
Oui.
Donc les murs ne servent à rien, ça traite de la parole principalement.
Les murs ne servent à rien, ça parle de la migration vraiment d'un point de vue global. C'est-à-dire que l'idée de cet événement, c'était d'entrer dans les questions de migration par différents formats, différentes formes, mais aussi par différents sujets. Les sujets sont des portes d'entrée différentes. Donc, par exemple, sur nos 4 années d'existence, on a passé des films sur la question des mineurs en France, sur la question des évacuations de camps à Paris, sur qu'est-ce qui se passe à Agadez, ville africaine qui est vraiment un des carrefours des migrations africaines qui remontent vers l'Europe. Donc, il y a vraiment des sujets très différents les uns des autres et tout ça converge dans tout un week-end où on essaye d'avoir des points de vue très documentés où des journalistes, documentaristes, écrivains, historiens prennent le temps d'expliquer des enjeux, d'expliquer une problématique en sortant des réponses toutes faites, du noir et du blanc, pour essayer de complexifier, mais de façon argumentée et compréhensible, à la fois pour un public militant, mais aussi pour un public non aguerri. Et c'est exactement ce qu'on fait là avec les 2 mini-conférences de Julia Brilland, qui est une amie qui est juriste du droit d'asile et qui va faire une petite conférence le samedi qu'on a intitulée « Le droit d'asile en France », très sobrement, où en 30 minutes, elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est le parcours du demandeur d'asile en France. C'est des choses qui sont importantes à comprendre pour comprendre ce que vivent ces personnes, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont à la rue? Est-ce qu'ils sont en demande d'asile? Est-ce qu'ils sont déboutés? Est-ce qu'ils sont sans papier? Est-ce qu'ils sont en procédure Dublin? Ça peut paraître assez complexe, mais si on prend le temps de l'expliquer clairement, normalement, à la fin des 30 minutes, tout le monde peut avoir compris ça.
Les murs ne servent à rien, ce titre de festival.
Oui.
Que voulez-vous signifier?
Alors, ce titre, en fait, il est extrait d'un film. un film qu'on a passé dans la première édition des Murs. Et il est extrait d'une parole d'un policier de la Guardia Civil en Espagne, qui travaille à cette frontière entre le Maroc et l'Espagne, où effectivement pas mal de personnes tentent de rentrer en Europe. Et où cet homme dit « Mais les murs ne servent à rien face à des hommes qui ont traversé, qui ont fait plus de 1000 kilomètres. » Alors moi, j'ai pas gardé la suite de la phrase, mais c'est un peu l'idée que cette politique du mur, qui est la politique de l'Europe forteresse, et qui ne fait qu'augmenter, comme on peut le voir. D'ailleurs, c'est assez révélateur de voir que quand un pays finit par tomber aux mains des talibans, la première chose que notre président a à dire dès le lendemain, en parlant au peuple français, c'est de dire « on va bloquer l'immigration clandestine ». Pardon, il existe une chose, c'est le droit d'asile. Donc, est-ce qu'elle est clandestine ou pas, c'est pas à toi d'en décider. Une personne qui est persécutée dans son pays a le droit de venir demander l'asile en Europe. Donc, on voit bien ce réflexe, en fait, ce réflexe sécuritaire, ce réflexe de se claquemurer derrière des murs. Et on passe un film que je recommande aux gens de venir voir, ce film qui s'intitule « L'Europe au pied des murs ». Titre bien choisi, qui en une heure, en 60 minutes, explique cette politique du mur et cette politique de fermeture et comment cette politique, elle est insufflée par les sociétés du complexe militaro-industriel, en fait, Thalès et compagnie, et comment ces gens ont un très grand pouvoir, notamment au Parlement européen, des gens qui n'ont aucun mandat démocratique, qui ne sont élus par personne et qui ont une puissance de lobby au sein de ces institutions qui vont derrière voter cette politique sécuritaire parce que les sociétés qui leur vendent les murs, les barbelés, les lasers et tout ce qui s'ensuit, les ont bien conseillés, quoi.
Oui, on peut citer Lafarge, hein, qui payait des terroristes.
Lafarge, ces derniers temps, qui commencent à venir un peu à la surface, effectivement.
Voilà, c'est un peu à cette image-là qu'on peut comparer justement ce lobby qu'on peut trouver en Europe. C'est deux journées bien chargées, hein, qui commencent à 15h30 pour samedi.
Oui.
Donc, vous parliez justement du droit d'asile par Julia Brillon, qui expliquera ce qu'est ce terme, ce qu'il signifie, et justement de ne pas confondre migrants et réfugiés. Ça, c'est un peu le problème des médias et de notre président, justement. Et puis, suivi ensuite d'un reportage radiophonique, donc « Quand les mineurs africains sont abandonnés dans la montagne » de Raphaël Kraft. Donc, une émission qui a été produite pour France Culture en 2017. Alors, ces écoutes s'opèrent comment dans cet espace ?
Eh bien, on est sobrement assis dans la halle de Diolfi, puisqu'on a quand même la chance d'avoir une très, très belle salle à Diolfi. Et dans mon souvenir, on baisse un tout petit peu la lumière et on passe comme ça 40 minutes en immersion avec un bon son à écouter ce documentaire de Raphaël Kraft qui raconte notamment cette nuit où il a suivi les maraudeurs de la région de Briançon qui viennent donc en aide aux personnes qui ont déjà traversé la frontière entre l'Italie et la France, qui les récupèrent côté français, des fois dans des conditions physiques très très difficiles. Et une nuit de maraude comme celle-ci, ils ont récupéré quatre petits jeunes et ils ont subi donc une arrestation par les gendarmes. Et ces jeunes-là ont été renvoyés côté italien, ce qui malheureusement arrive souvent. Et Raphaël Kraft a eu le temps de leur donner rendez-vous en leur disant « Si vous êtes renvoyé cette nuit de côté italien, rendez-vous demain, gare de Bardonecchia. » Puisque lui, évidemment, a des papiers, donc peut passer cette frontière comme il le souhaite. Et le lendemain, il les a retrouvés et ces jeunes ont pu lui expliquer leur vision de cette nuit-là. Et ce sont en grande partie des jeunes venus de Guinée-Conakry.
À la suite, à 16h40, une nouvelle série de lectures, donc d'extraits des Enfants de la Clarée, toujours de Raphaël Kraft.
Oui.
Donc cela parle exactement de la Clarée, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ?
La Clarée, c'est cette vallée, en fait. La vallée de la Clarée, c'est cette vallée entre l'Italie et la France, dans la région de Briançon. Et en fait, pourquoi il a appelé ça les Enfants de la Clarée ? Parce que suite à cette nuit passée avec les maraudeurs, Raphaël Kraft Bert, il a monté un projet pédagogique avec les enfants de l'école de Névache, qui se trouve justement dans cette vallée. Et il a fait tout un travail avec de discussion avec ses enfants de l'école élémentaire, qui l'ont mandaté pour partir, lui, en Guinée-Conakry, poser des questions aux gens de ce pays pour essayer de nous aider à comprendre pourquoi autant de jeunes mineurs isolés quittent ce pays pour venir vivre un rêve d'Europe.
À la suite donc, de cette série de lectures opérées par Nadine Desper, il y aura une discussion avec justement Raphaël Kraft qui sera présent. Donc, et on peut parler un peu de ce monsieur.
Bien sûr, ouais, on a beaucoup de chance de recevoir Raphaël Kraft. Je suis super contente. Je l'ai rencontré pendant le festival Exil à Briançon, justement, en octobre dernier. Et il a accepté de venir pour notre événement Adieu le Fi. Ben, Raphaël Kraft, il travaille sur les questions de migration depuis bien longtemps. Hein. Il a réalisé de nombreux reportages radiophonique sur cette question, notamment pour l'émission La Série Documentaire de France Culture, qui sont toujours des reportages très construits, très bien documentés. Enfin, moi, j'adore cette émission. Et il a notamment réalisé un documentaire sur la question des mineurs isolés marocains dans le quartier de la Goutte d'Or, sur comment la migration transforme des villes, avec un reportage sur certaines villes italiennes. Et donc, on aura la chance de pouvoir lui poser nos questions, discuter avec lui. Et là, notamment, il y a plusieurs années, créer une radio en Afghanistan. Donc, au vu de l'actualité, je pense qu'on aura aussi l'occasion de parler de l'Afghanistan avec lui.
Et du devenir de cette radio, peut-être, aussi.
Oui, tout à fait.
Ensuite, il y a une petite pause entre 17h45 et 18h. Oui. C'est le moment pourquoi, à ce moment-là ?
Ah ben, nous, pendant l'événement, dans cette salle, on a beaucoup de chance. Il y a ce qu'on appelle un foyer, donc il y a un très joli bar où on vend des boissons, où on vend des gâteaux, où on peut du coup se retrouver un peu entre participants pour discuter de ce qu'on vient d'entendre, de ce qu'on vient d'écouter, discuter avec Raphaël sûrement, et pour pouvoir enchaîner après avec le film d'Héloïse, qui s'intitule Le Refuge, et qui est un film documentaire sur le refuge de Briançon, qui est un lieu où moi j'ai été bénévole certes plusieurs fois, que Héloïse était vraiment une amie, mais si j'ai voulu montrer son film, c'est parce que pour moi il montre très très bien l'âme de ce lieu qui est le refuge de Briançon, qui a accueilli largement plus de 10 000 personnes depuis 4 ans d'existence. C'est un lieu qui s'est monté de façon tout à fait associative, qui a été créé par des citoyens de Briançon, voyant arriver de plus en plus de gens par la montagne, qui au tout début étaient accueillis dans des tentes sur une place dans Briançon. Et ces citoyens se sont mobilisés pour rapidement créer une association et se faire mettre à disposition un lieu qui a été mis à disposition par la communauté de communes, et où pendant 4 ans, ils ont accueilli des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens chaque semaine. Ils ont préparé des repas 3 fois par jour, fait des milliers de lits, lavé des milliers de draps et donné des milliers de conseils à ces gens qui sont tous voués à continuer la route, mais qui ont pu au moins, après avoir passé la frontière, se reposer pendant 2-3 jours avant de continuer la route. Lieu qui vient de déménager, puisque maintenant le refuge de Briançon a quitté ce lieu qui était devenu extrêmement précaire et dans un lieu beaucoup plus neuf.
Il y a une certaine autonomie de gestion dans ce lieu par les migrants eux-mêmes.
Alors, il y a un système qui s'est mis en place au refuge qui est le système de ce qu'on appelle les permanents, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que dans ce genre de lieu, il y a toujours des personnes dans le groupe des personnes qui arrivent, qui sont proactives, qui sont OK pour aider, qui deviennent finalement référentes. J'en ai connu plusieurs qui ont pendant des semaines cuisiné au refuge, pendant des semaines été responsables de donner un lit à chacun la nuit quand il y a des arrivées, puisqu'il faut quand même savoir évidemment que cette frontière étant très contrôlée, la plupart des passages se font la nuit et il n'y a pas de bénévoles français qui dorment sur place. Ce sont vraiment des permanents qui ont décidé pendant quelques temps d'aider leurs frères migrants sur ce lieu pendant un temps, et puis au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, ben, eux aussi reprennent la route et quelqu'un d'autre reprend leur poste.
À la suite, il y a une discussion qui sera programmée avec Héloïse Paul, d'ailleurs, et aussi Pauline Ray, qui était coordinatrice du refuge.
Oui, oui. Pourront nous parler un peu de... Déjà, Héloïse pourra nous parler de comment est-ce qu'elle a construit ce film, comment est-ce qu'elle a capté ces images et construit ce film. Et puis, bien sûr, Pauline pourra nous faire part de son expérience de coordinatrice dans un lieu pareil.
Alors, à 19h30, à la suite, il y aura un repas. Alors, ce repas, j'imagine qu'il y a une association qui s'y attelle.
Alors, on travaille, c'est notre association qui gère un peu ça, mais on travaille en collaboration avec une traiteur dromoise du coin qui est Marion et qui cuisine super bien. Du coup, il y a une restauration sur place. Vous pouvez rester. On va pouvoir manger tous ensemble, je pense, devant la halle, si le temps le permet, et pour pouvoir enchaîner avec la soirée.
C'est une association ?
Nous, on est une association, Passerelle. Oui, tout à fait. C'est l'association qui porte l'événement et qui est aussi une association d'accueil. Adieu, Lofi.
Et qui s'occupe du repas également, alors ?
C'est Marion qui gère le repas en salé et nous, on fait les gâteaux.
Nous passons à la conférence avec des ponctuations de lecture. Donc, il y aura plusieurs propositions.
Oui, on a décidé cette année de faire vraiment un focus historique sur la question des camps français dans lesquels étaient enfermés les Espagnols en 1939, au moment de la retirada, qui sont les camps donc, du sud de la France. Et on invite Alexis Buffet, qui a été l'éditeur scientifique d'un livre sur Vladimir Posner. Donc Vladimir Posner, c'était un journaliste russe antifasciste qui a beaucoup enquêté en 1939 dans ces camps. Et qui a notamment beaucoup œuvré à faire sortir de ses camps une grande partie des intellectuels qui y étaient enfermés. Et Alexis Buffet donnera une conférence appuyée, entre autres, sur les photos d'archives qui sont dans le bouquin. Et ce sera ponctué d'extraits des écrits de Vladimir Posner qui seront lus par Virginie Komaniecki.
L'heure suivante, à 21h30, il y aura un film documentaire, donc L'Europe au pied des murs, comme vous en aviez parlé au début, par Nicolas Dupuis et Elsa Putla. Donc un film qui a 3 ans d'âge, un film qui parle donc de l'Europe et de ses frontières dont elle s'agrémente de murs, comme je crois en Hongrie parfois.
Oui, ben, des murs, il en pousse un peu partout. Il y en a un, on connaît celui de Melilla depuis longtemps, hein, cette frontière qui avait d'abord un mur, il y en a eu 2, maintenant il y en a 3. Et c'est une frontière où pourtant il y a souvent des entrées, il continue à y avoir souvent des entrées. Mais c'est ce que je trouve très intéressant dans le film de Nicolas Dupuis et Elsa Putella, c'est qu'ils expliquent assez bien que les gens qui vendent cette technique sécuritaire, puisque c'est quand même de la technique, ont tout intérêt à ce que ces frontières restent étanches, en tout cas en partie, car si un jour on les fermait véritablement, il n'y aurait plus de business à faire. Donc c'est intéressant en tout cas de se poser aussi la question de ce point de vue-là. Non, vraiment, je recommande ce film.
Une question, ces murs, je ne sais pas, j'en ai pas vu, hein, mais est-ce qu'ils sont faits pour durer ? Ou alors c'est juste du court terme, voire du moyen terme. Ça me fait penser à une vidéo que je voyais avec le mur qui sépare le Mexique et les États-Unis, qui a été relancé par Trump. Et on voit cette vidéo où des parties de ce mur étant portées par le vent. Donc je me demandais, est-ce qu'il y a une conception qui est faite pour durer de ces murs ou,
alors, je n'aurais pas une réponse globale, mais je pense quand même que, par exemple, les murs justement en Europe de l'Est, les murs qui sont en train de se faire sur la route des Balkans. Et là, par exemple, on a vu que la Turquie, avec ce qui se passe en Afghanistan, s'excite un peu à ce niveau-là, puisqu'ils ont peur de la vague de personnes qui pourraient arriver suite à la prise de pouvoir des talibans. Je pense que malheureusement, oui, on est sur des politiques de long terme et on est sur une vision globale. On est en fait sur cette idée que oui, on pourra s'enfermer, quoi. Moi, c'est ça, en fait, qui me travaille. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on aura beau mettre tout ce qu'on voudra, quand les gens veulent venir, ils viennent. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'ils prendront plus de risques. On le voit bien quand on voit ce qui se passe en Méditerranée. Et je pense quand même que de plus en plus de personnes par les réseaux sociaux, par l'Internet, de plus en plus de personnes en Afrique qui pensent à la route sont quand même de plus en plus au courant. Je pense pas qu'ils soient au courant de la difficulté, par exemple, que vivent les personnes sur les trottoirs parisiens ou sur les trottoirs de Calais. Ça, il y a un gros tabou aussi des personnes qui sont ici de ne pas communiquer sur cette détresse-là avec les gens du pays. Par contre, sur le fait que des gens meurent en Méditerranée, sur le fait que des gens meurent en essayant d'atteindre les Canaries, je pense que ce risque-là, il est connu et ça n'empêche pas les personnes de venir.
Ça, c'est la fin de cette première journée.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a autour de ce festival ou même Adieu le Fille, peut-être, pour apprécier le cadre?
Alors, Adieu le Fille, c'est ça qui est génial, c'est que vous allez... Il y a plein de choses à voir. Bah, évidemment, il y a plein de céramistes qui sont installés dans le coin. Il y a plein de belles boutiques. Nous, notre événement, il a lieu au bout de la rue du Bourg. Hein. C'est la lieu des commerces d'Adieu le Fille. Donc, il y a plein de boutiques vraiment sympas à visiter. Il y a une extraordinaire librairie qui s'appelle Sceaux et Gambade, avec salon de savoureux. Et d'ailleurs, Sceaux et Gambade est notre partenaire, puisqu'il y aura une très très belle table avec une magnifique sélection de livres qu'on a faite avec l'association qui seront en vente dans la salle du festival. Une cinquantaine d'ouvrages sur les questions de migration, dont bien sûr les bouquins des invités qui seront là. On aura aussi l'infokiosque de Voix Libre Drôme, l'association que vous ici vous connaissez très bien, évidemment. Ils vont venir en soutien et je suis très très heureuse de ça. Et puis dans Dieu le Fils, il y a des galeries, il y a des très bons restos. Enfin voilà, je pense que c'est... Si on a envie de venir tout le week-end, c'est pas un souci de remplir.
Je suppose qu'il y a aussi l'hébergement qui est prévu un peu autour de ça.
Alors, sur Dieu le Fille, il y a plusieurs possibilités. On a maintenant quand même deux assez grands hôtels. Il y a deux campings et il y a beaucoup de chambres d'hôtes. Donc là, si on commence à s'organiser en se dépêchant un peu, je pense qu'il y a vraiment de quoi trouver quelque chose, oui.
Le public qui vient pour ces murs ne servent à rien, quel est-il et qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils retiennent de ces journées?
Alors, notre public, je pense qu'il évolue quand même, mais on a beaucoup de gens vraiment des Dieulefitois. Clairement, les Dieulefitois sont quand même très ouverts à ces questions-là et intéressés. Ils sont avant tout nos membres, évidemment, membres de l'association Passerelle, qui sont parfois des membres donateurs aussi, qui sont les membres grâce à qui on peut loger une famille en exil depuis plus d'une année maintenant. Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent de plus loin parce qu'on est en lien avec les réseaux d'accueil de Grignan, de Bourdeaux, évidemment de la Vallée ici, du Diwa. Moi, je suis beaucoup en lien avec les gens de Briançon, avec tous ces migrants. Donc il y a aussi des gens qui sont vraiment fondamentalement des militants à l'année, qui viennent un peu se ressourcer aussi, je pense, pendant ce week-end, prendre le temps. Moi, je pense que c'est important, même quand on est dans l'action au quotidien, de temps en temps prendre le temps de se poser devant un film, d'en discuter après. C'est important. L'accueil n'est pas forcément une chose facile au quotidien. Et Dieu sait que les gens de Briançon peuvent en parler parce qu'il y a une forme des fois d'épuisement parce que c'est un mouvement qui ne s'arrête pas et que c'est parfois humainement difficile de voir tant de gens arriver et de se dire mais que vont devenir ces personnes? Où vont-elles dormir? Comment notre société va les prendre en charge, les intégrer? Donc c'est bien aussi, je crois, de prendre un petit week-end où on se retrouve ensemble. Donc c'est un peu un public comme ça mélangé de gens à la fois très militants et d'autres pas du tout, mais qui se questionnent et qui sont pas forcément satisfaits par le reportage de 2 minutes et demie sur une télé de grande audience où on a à peine posé les enjeux et encore, et où surtout on nous donne une réponse sécuritaire au final. Donc essayons de croiser les points de vue.
Nous passons à la deuxième journée, donc ce dimanche 26 septembre, qui commence à 10h30,
oui,
avec une conférence « Photographie l'exil, humaniser le regard », donc une histoire et des enjeux de la photographie humanitaire par Bruno Cabanne.
Ah ouais, alors là, si je peux me permettre, c'est le moment à ne pas rater. Moi, je suis tombée en pamoison devant le livre de Bruno Cabanne, dont j'ai entendu parler, rendons à César ce qui est à César, sur France Culture dans la Grande Table, qui est souvent quand même de bons conseils. C'est un livre magnifique qui s'appelle Un siècle de réfugiés, photographier l'exil. C'est un beau livre, c'est un livre format A4, assez épais, dans lequel il y a des dizaines de photos humanitaires qui parlent. En en fait, cet homme, il analyse l'image et la place des personnes en exil dans la photo humanitaire sur tout le siècle. Ça veut dire qu'on part des guerres balkaniques, hein, donc ça veut dire 1910, et on vient jusqu'à aujourd'hui, les bateaux qui arrivent de Libye, qui traversent la Méditerranée, en passant par la partition Inde-Pakistan ou le col du Pertu quand les Espagnols sont arrivés, quoi. Donc c'est vraiment, on balaye comme ça le siècle. Et là, dans cette conférence, du coup, il a choisi 9 photos. Et à partir de ces 9 photos qu'il va commenter, il va essayer de nous faire une essence de son livre et de son analyse de cette histoire-là.
On peut parler aussi de Bruno Cabanne. Donc, il est présenté comme un historien spécialisé en histoire contemporaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui aussi ?
Il est vraiment spécialiste de l'histoire des guerres, et notamment de l'histoire de la guerre 14-18. Et il occupe une chaire d'histoire de la guerre à l'Ohio State University, donc aux États-Unis. On a la chance que la semaine d'avant, il était déjà sur un festival en France. Donc, du coup, hop, on l'a récupéré avant qu'il reprenne son vol. Et il est super content de venir sur notre événement. Et nous, on est tout intimidés. Et on est trop, trop contents de le recevoir. Ça a été un très gros travail de collecter les photos, parce qu'évidemment, il faut payer des droits pour ce genre de choses. Donc, ça a été un gros travail, mais qu'on a fait vraiment avec plaisir, parce que je pense que ce sera un moment très précieux.
Suivi ensuite d'une pause, donc une pause qui sera dédiée à la discussion, oui. Au café, au croissant
tout à fait,
peut-être,
tout à fait.
Et puis aux cloches de la fin de messe de 11h. Et puis on reprend donc à midi avec encore des lectures d'extraits. Et on a tous un ami noir, par exemple, de François Gémen. Et voilà.
François Gémen, alors François Gémen, c'est un homme que vos auditeurs ont sûrement déjà entendu. Il est très, très écouté dans les médias. Et il a écrit ce bouquin « On a tous un ami noir ». Alors moi, j'aime beaucoup le titre, puisque c'est évidemment une référence à cette fameuse réponse toute faite des personnes de droite ou d'extrême droite qui toujours ont ce bon mot de nous dire qu'ils ne sont pas racistes puisqu'ils ont un ami noir. C'est un bouquin qui se lit très facilement, qui est vraiment un bouquin de géopolitique. Je ne sais pas lui comment est-ce qu'il le définit, mais qui se veut didactique et par chapitre poser des faits, poser des chiffres, nous donner des statistiques récentes, cumulées, fiables, pour déconstruire certains préjugés sur la migration. Et du coup, ben là, alors, tâche très difficile, il a fallu que je choisisse des extraits dans ce bouquin, sachant que tout y est absolument intéressant, donc ça n'a pas été évident, mais il a bien fallu faire un choix, et effectivement William Messonnier aura cette tâche de nous lire ces extraits, mais ce qui est super c'est qu'ensuite François Gémen sera présent, donc du coup si on a des questions à lui poser on pourra le faire en direct et on aura une discussion d'environ 40 minutes avec lui, donc on pourra même peut-être débattre, qui sait.
Est-ce que vous abordez aussi la désinformation, l'intox ?
Alors, dans son bouquin, François Gémen, effectivement, il déconstruit certaines choses qui font un peu partie de la pensée unique ou qui sont trimballées de façon sans être repensées ou sans être re-questionnées. Donc, c'est tout à fait salvateur. Après, il y a aussi des choses un peu plus graves, je dirais. Par exemple, il y a un chapitre sur cette fameuse notion du grand remplacement, donc c'est très intéressant de re-regarder mais d'où c'est sorti, qui a utilisé ce terme pour la première fois, qui l'utilise dorénavant, puisque là dernièrement, il y a 2 semaines, il y a de nouveau l'extrême droite s'est encore a repris un peu cette idée à partir d'une étude qui en fait ne parlait pas du tout de ça, qui était une étude plus sur l'utilisation du territoire urbain, et d'ailleurs les auteurs de l'étude ont dû dire mais attention, c'est pas ce que dit notre étude. Enfin, donc c'est intéressant d'essayer de. C'est toujours cette idée de rester calme et de reprendre calmement depuis le début pour essayer de retrouver des vérités, quoi.
comme les médias nous le proposent, la presse médiatisée, je parle des télévisions principalement, qui captent le regard des téléspectateurs pour les fixer sur des points arrangeants. Et donc, c'est là aussi peut-être un moyen de se nettoyer de toutes ces comment on peut dire tromperie, je dirais même.
Oui, tromperie ou en tout cas raccourci. En tout cas, voilà, façon trop rapide de parler d'un sujet. Et ça, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment prendre le temps. Ouais. Pour aller vers un peu plus de justesse et voir que l'accueil, il existe aussi. Que des personnes prennent ça un peu à bras-le-corps, que ce n'est pas forcément évident, mais que ça existe dans tout plein de territoires sans faire de bruit. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse quand on commence un peu à s'intéresser à ces questions. C'est de voir que, par exemple, monter en épingle la question des mineurs isolés en nous sortant des statistiques, en nous disant que 70% des agressions dans Paris sont faites par des mineurs isolés. Oui, d'accord. Et sinon, les dizaines et les dizaines et les dizaines de mineurs isolés qui sont en CAP peinture, en CAP boulangerie, en CAP maçonnerie, qui travaillent mais comme des forçats pour qui l'école est vraiment la porte de sortie et qui veulent absolument s'intégrer ici, bah ça, évidemment, ça prend un peu plus de temps d'en parler, quoi. C'est un peu moins intéressant. Donc sur ça, là, la polémique qui a été lancée par l'extrême droite sur les mineurs isolés, effectivement, m'a mis vraiment en colère parce que j'en ai vu beaucoup des mineurs qui sont des perles et qui ont envie de faire des choses ici malgré la difficulté qu'ils ont eue sur la route.
Donc cette conférence sera suivie ensuite d'une discussion avec Bruno Cabane, justement. Hein. Donc il est historien et spécialisé en histoire contemporaine. Discussion avec François Gémen, donc à la suite de cette lecture d'extrait à 12h20, une discussion avec François Gémen, donc qui est chercheur à l'Université de Liège, et où il parle de politique et climat et d'émigration. Et ensuite, un 13h, un repas toujours préparé par les...
Par même... Marion, oui, toujours.
un repas... D'ailleurs, le menu, c'est plutôt végétarien.
Alors, en général, avec Marion, il y a toujours moyen de s'arranger végétarien. Donc, il y a en général les deux formules.
Il y en a pour tous les goûts.
C'est ça.
Ensuite, à 14h30, il y aura une mini-conférence sur les migrations dans le monde.
Oui.
Toujours avec Julia Brilland, juriste en droit d'asile, donc, et qui nous parlera de... Précisément quoi ?
Alors là, Julia, c'est toujours cette idée de ces mini-conférences d'une demi-heure, c'est toujours de faire de la vulgarisation, hein, d'être très didactique. Et l'immigration dans le monde, elle va faire une sorte de panorama. Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de regarder. Alors, honnêtement, hein, c'est souvent des choses qui sont appuyées, notamment sur les chiffres du HCR, hein, le Haut Commissariat aux réfugiés, parce que ces gens-là scrutent quand même les migrations mondiales un peu en temps réel. Et par exemple, voilà, penser que toute l'Afrique veut venir en Europe. Oui, alors ça, typiquement, c'est très vite dit, puisqu'en réalité, quand on regarde, le plus grand nombre de gens qui migrent, c'est-à-dire qui quittent leur pays pour un autre... Alors déjà, il y a les migrations internes, ce qu'on appelle, c'est les gens qui sont déplacés au sein de leur propre pays, en fonction d'une famine, d'une guerre, d'une catastrophe climatique, etc. Mais surtout, les plus grandes migrations qui existent sont les migrations vers le pays d'à côté. Ça, c'est clairement, la statistique, elle est très claire. Et notamment en Afrique, bah, les migrations intra-africaines sont les plus grandes. C'est pas du tout que toute l'Afrique veut venir chez nous. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. Et je crois que Julia a aussi l'intention de faire un petit point en respectant quand même sa demi-heure de timing. Mais je crois qu'elle veut nous faire notamment un petit point un peu focus sur la question de la migration des Afghans. Savoir ces personnes qui quittent l'Afghanistan, où est-ce qu'elles sont, dans quel pays. Est-ce qu'elle se déplace, etc.
À la suite, à 15h, un court-métrage documentaire « Cachache au-dessus de Zaatari ».
Ouais,
de
ça Bruno c'est un Piretti. Très joli film qui dure 15 minutes. C'est un court-métrage documentaire « Cachache au-dessus de Zaatari ». Zaatari, c'est un camp un camp de réfugiés où il y a plus de 100 000 personnes syriennes en Jordanie. Et les Kachach, c'est un métier en fait. Ce sont les gens qui élèvent les pigeons voyageurs. Et ce film, pour moi, en tout cas, c'est une sorte de métaphore de liberté au sein d'un espace clos, quoi, qui est un camp de réfugiés de personnes qui n'attendent qu'une chose, pouvoir un jour rentrer en Syrie.
Sera suivi une pause pour ensuite, à 15h30, un film documentaire, Broken Land, de Stéphanie Barbet et Luc Peter.
Tout à fait, vous en parliez justement tout à l'heure, hein, le mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc ce film, il date de 2014, c'est des réalisateurs suisses qui l'ont réalisé, mais même s'il n'est pas tout neuf, j'ai quand même souhaité le montrer. C'est un film qui a pas mal tourné, je crois, dans les festivals. Je trouve qu'il était très très bien réalisé. Et c'est vraiment on prend le temps d'observer ces personnes qui vivent au pied de ce mur entre le Mexique et les États-Unis. Et donc on observe un peu tout le monde, c'est-à-dire à la fois les personnes qui tentent de le franchir, mais surtout les gens et notamment les Américains qui y vivent, et comment face à ces enjeux-là de migration à cet endroit, comment les personnalités de chacun se révèlent, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont envie d'aider ces personnes qui migrent, donc qui laissent des bouteilles sur les chemins, qui laissent des habits, qui laissent de la nourriture en étant en soutien, en solidarité avec ces personnes migrantes, et à l'inverse, j'ai envie de dire les fous de sécurité qui, eux, sont dans la défense coûte que coûte de leur patrie, de leur territoire, qui sont sur des quads, qui achètent des lasers pour détecter les personnes la nuit, sans aucun mandat de l'État ou de quoi que ce soit. Hein. Donc là, c'est les vrais cow-boys. C'est absolument effarant.
Effectivement, j'ai visionné des vidéos sur YouTube où ça parle aussi de ces justiciers ou de ces gardiens autoproclamés de frontières et qui n'hésitent pas à faire le carton sur des populations qui passent dans le désert. C'est horrible.
C'est fou. Voilà, alors j'avoue, d'habitude, on finit toujours Les murs ne servent à rien avec un good film movie. Cette année, j'en avais prévu un et j'ai pas pu malheureusement l'obtenir. Donc on va finir sur une note un peu tristoune avec ce film Broken Land. Mais promis, l'année prochaine, le feel good movie pour la fin, je l'aurai. Parce que c'est vrai que c'est des questions qui des fois sont un peu plombantes. Donc j'aime bien finir sur un film. L'année dernière, on avait fini sur Green Boys, qui est un magnifique film d'amitié entre un jeune petit français avec un mineur isolé guinéen, justement, sur leur amitié, sur leur rencontre. Mais bon, je crois que, en tout cas, pour la qualité des conférences et des invités qu'on a, je vous encourage, vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre pour Les murs ne servent à rien 5.
Pour trouver ces films qui seront projetés, comment se passe justement la carrière d'un cinéma documentaire qui traite de certains sujets difficiles ?
Eh bien, moi, en fait, à partir du moment où on est organisateur d'un événement comme je le suis, c'est très facile, entre guillemets. Il suffit de contacter les boîtes de prod, des fois les réalisateurs en direct, et on obtient en général facilement les liens pour pouvoir les visionner et potentiellement les choisir. Après, il y a toute une politique qui est normal, hein, c'est de la politique culturelle. Par exemple, il y a deux films que je voulais vraiment montrer cette année. Ces deux films, ils ont été présélectionnés sur des gros festivals de documentaires. Donc, du coup, ces festivals-là demandent l'exclusivité. Donc, moi, je n'ai pas pu les montrer. Donc, je les montrerai l'année prochaine.
L'association Passerelle, c'est combien de personnes qui travaillent ?
Alors, l'association Passerelle, c'est environ 80-85 membres. Qui nous soutiennent moralement, qui nous soutiennent parfois financièrement. Après, sur le terrain, c'est entre 15 et 20 bénévoles de terrain qui à la fois organisent et soutiennent l'événement Les murs ne servent à rien, mais qui surtout accueillent cette famille qu'on accueille depuis une année et demie, un couple avec 4 enfants qui vit à Dieulfi depuis environ le mois de mai 2020.
Et vous-même, Chloé Peterman, vous avez le pied aussi dans le monde du cinéma documentaire ?
Non, pas du tout. Moi, je suis artiste, mais mon médium, c'est pas l'image, c'est la terre, c'est la céramique.
Bien, je rappelle aux éditeurs aussi que si on peut trouver des renseignements, il faut aller sur un site internet.
Il faut aller sur le Facebook, l'événement Facebook qui s'intitule « Les murs ne servent à rien 5 ».
tout simplement.
Voilà.
Et donc, ça se passera du 25 et 26 septembre 2021, avec, on imagine bien, les contraintes sanitaires.
Tout à fait, passe sanitaire. Désolé.
Écoutez, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Et je vous remercie en tout cas, Chloé Peterman, d'être venue de Dieu le Fit pour nous parler de Murs ne servent à rien, 5e édition.
Avec plaisir.
Bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Merci.